RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, au téléphone. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Emmanuel Macron a présenté ce soir son plan de sauvetage pour l'automobile, une prime à l'électrique pour tout renouvellement, l'État paiera 7000 euros aux particuliers, une prime à la conversion plus généreuse, plus d'investissements en France, donc d'emplois, bref, un plan de 8 milliards d'euros. Vous connaissez bien le secteur de l'automobile puisque vous avez fait une partie de votre carrière chez Renault. Est-ce que ce plan vous paraît à la hauteur de la crise que traverse le secteur et à la hauteur aussi de l'enjeu environnemental?
Oui, bonsoir. Je pense que ce plan annoncé par Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur. Premièrement parce qu'il tire un trait sur le passé, les erreurs stratégiques qu'ont fait les constructeurs automobiles français, notamment Renault. Il n'y a aucune critique sur la stratégie de Renault. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a besoin de renouveler le parc, et la CGT le dit depuis des années et des années, sans jamais avoir été entendue, mais ces primes qui permettent, alors il faut savoir qu'est-ce qu'une famille modeste et une famille très modeste, mais qui permettent de renouveler un véhicule, une aide, c'est l'argent des contribuables. Et donc, en quelque sorte, ce sont les contribuables qui se payent eux-mêmes leurs primes. La troisième chose, c'est il fait l'impasse sur ce qui est sorti dans la presse ces derniers jours. Il a beaucoup parlé de deux usines dans le nord de la France, pour Renault par exemple, qui sont Maubeuge et Douai, mais aucunement il n'a garanti l'emploi dans les quatre autres sites dont la presse a évoqué la possibilité de fermeture, et je pense notamment à l'usine de Flins. Quid de l'avenir de ces sites. Et puis la quatrième chose, c'est effectivement, il était temps, alors il faut voir les modalités, mais il était temps qu'on s'occupe de fabriquer des véhicules plus propres, puisque vous le savez, Peugeot réimporte toutes ses voitures électriques d'un autre pays, qui doit être la Slovaquie, si je me souviens bien, et Renault fait venir des batteries de Corée. Donc on voit bien qu'il y a un problème de ce côté-là.
Philippe Martinez, est-ce que, puisque Emmanuel Macron a évoqué la relocalisation, l'impératif de relocalisation de la production en France, est-ce que ça vous paraît faisable ou est-ce qu'on est un peu dans le vœu pieux?
Il a parlé d'investissement et de localisation, pas de relocalisation. Et nous à la CGT, nous prenons des relocalisations, par exemple de fabriquer des petits véhicules Renault en France. On n'en fabrique plus un seul. Ça veut dire que à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, voire du monde, il faut revoir, et c'est ce que dit la CGT, un certain nombre de critères sociaux, car on peut toujours se gargariser de la baisse des coûts, mais la baisse des coûts, ce sont les salariés qui la supportent. Par exemple, on demande aux salariés de Renault au Brésil d'accepter une baisse de salaire de 30%. Alors vous imaginez déjà les salaires brésiliens au niveau où ils sont, à moins de 30%, est-ce que c'est ça qu'il faut faire accepter aux Français pour pouvoir fabriquer des véhicules? Donc on prend la problématique à l'envers.
Alors, le ministre, autre plan, hein, le ministre de la Santé et le Premier ministre ont donné hier le coup d'envoi du Ségur de la Santé, c'est-à-dire le plan hôpital. Édouard Philippe a promis des choix forts et rapides et assumés. Alors, forts et rapides, ce sont bien sûr les revalorisations de salaire. Ensuite, des choix assumés. Faut-il entendre, comprendre, assumer la souplesse dans le temps de travail, c'est-à-dire les 35 heures?
Ah, vous mettez le doigt sur le problème du sujet en cours. C'est un vieil adage d'un ancien président de la République. Travailler plus pour gagner plus. C'est pas nouveau comme formule. Vous savez, les personnels soignants, ils ont fait la démonstration durant ces deux mois, mais bien avant, qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup, largement plus de 35 heures. Donc c'est un autre problème qu'il faut voir. La première chose, c'est oui, reconnaître leurs qualifications, ils sont moins bien payés que la très grande majorité des soignants en Europe. Deuxièmement, il y a un problème d'effectifs. Il y a un problème d'effectif. Ce n'est pas un problème de temps de travail, c'est un problème d'effectif. Et puis, il faut aussi revoir, évidemment, toute cette politique de réduction des coûts, parce que la santé, ce n'est pas un coût, c'est un investissement.
Philippe Martinez, vous avez à la CGT, pas tout seul d'ailleurs, mais avec notamment ATTAC, Greenpeace, et vous avez d'ailleurs travaillé avec d'autres partis politiques sur l'élaboration d'un vaste plan pour sortir de la crise sanitaire et économique qui s'annonce. Dans ce plan, vous dites que, je cite, hein, « l'argent magique existe, il suffit d'aller le chercher au bon endroit, c'est dans la poche des plus riches, que ce soit les entreprises ou les particuliers, c'est ça ?»
Alors je fais une petite précision, on a fait ça entre syndicats, ONG, associations, pas avec les partis politiques.
Vous avez des partis qui ont réfléchi avec vous
On les a invités pour leur présenter nos propositions, et c'est à eux maintenant de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'ils
veulent en faire.
Exactement, donc, c'est une petite nuance mais elle est importante. Oui, l'argent magique, c'est une formule.
J'ai bien compris.
C'était pour reprendre la formule de M. Macron, qui disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Bah, vous savez, je sais pas, on peut parler des paradis fiscaux, par exemple. C'est de l'argent invisible, mais qui existe, parce qu'il est caché. On peut parler de la fiscalité. Quand des entreprises, je pense à Amazon, sans faire de publicité d'ailleurs, ne payent pas beaucoup d'impôts ou pas du tout d'impôts, dans notre pays, ça c'est de l'argent qui devrait revenir au bien commun. Donc de l'argent, il y en a, il est mal réparti et certains, on ne parle pas de fraude fiscale, on parle, parce qu'on est pudique, on parle d'optimisation fiscale, mais ça ressemble beaucoup à de la fraude.
Philippe Martinez, est-ce qu'une contestation sociale type gilet jaune pourrait se réveiller, puisque la crise sociale qu'a généré le Covid va être terrible. Il ne faut pas être grand clair pour le savoir. Est-ce que vous craignez cela, hein, ou vous le souhaitez peut-être, une forme de révolution, on va dire?
On va mesurer nos propos, mais enfin, en tout cas, oui, si rien ne change, on peut pas revenir comme avant. Trop de problèmes ont été mis encore plus en évidence durant cette crise. Et vous savez, par exemple, les problèmes de salaire, ceux qu'on appelle les premiers de corvée, on vient de découvrir qu'ils étaient indispensables au pays, beaucoup de femmes d'ailleurs, et qu'ils étaient très mal payés. Donc si rien ne change, oui, il y aura un mouvement social. Et d'ailleurs, il y a déjà des mouvements dans les hôpitaux, ça recommence, j'allais dire. Il y a une usine Renault qui est en grève depuis 2 jours, hein, vous savez, en Bretagne par exemple. Donc s'il n'y a pas de réponse à la hauteur de ce qu'a mis encore plus en avant cette crise sanitaire, il y aura un mouvement social important et les syndicats, les ONG, les associations comptent bien jouer leur rôle là-dedans.
Philippe Martinez, est-ce que tout de même vous saluez d'une certaine manière les filets sociaux qui ont été mis en place par le gouvernement pendant la crise, notamment le chômage partiel?
Ah ben, bien sûr qu'on les salue, puisqu'on les défend depuis plusieurs décennies. C'est le gouvernement qui ne les saluait pas avant. Vous savez, ceux qui disaient « oui, il y a trop de privilégiés en France, il faut revoir le modèle social », eh bien, ce modèle social qui a été beaucoup attaqué, il sert quand même à quelque chose. Vous voyez, la situation en France et la situation aux États-Unis pour les salariés, ce n'est pas tout à fait la même. Donc oui, ce modèle social, ce n'est pas un boulet, c'est un atout.
Philippe Martinez, dans le journal du dimanche, ce week-end, il est écrit que vous étiez fortement contesté par la frange la plus dure de la CGT. Certains vous trouvent trop consensuel, d'autres au contraire vous accusent d'empêcher la reprise et de surfer sur l'antimacronisme. Votre situation n'est pas très confortable et dans le fond, est-ce que ça ne brouille pas finalement le positionnement de votre syndicat?
Je me sens... Évidemment, il faut réfléchir comme tout le monde. Mais cet article, il est un peu décalé, déplacé. C'est toujours des affirmations sous le coup de l'anonymat. On évoque 134 organisations. Vous savez, il y a plus de 20 000 syndicats à la CGT. Donc je ne suis pas spécialiste des statistiques, mais ça ne fait pas grand-chose. Il y a des débats à la CGT.
Oui.
Moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, l'initiative qu'on a prise avec les ONG, les associations, vous savez... Quand la CGT parle à Greenpeace, on a l'impression que qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Ben ça, c'est salué par beaucoup de jeunes, par exemple.
Merci. Merci, Philippe Martinez. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. C'était par téléphone, donc cette émission est un peu écourtée, puisque techniquement, on a eu du mal à vous voir à l'image. Merci beaucoup, M. Martinez, d'avoir accepté notre invitation. Et à très vite sur France 24 et le retour de Mardi Politique, bien sûr, la semaine prochaine.
Bon,
merci, Frédéric.
Bonsoir à tous.
RFI Soir,
Anne Contner.
Bonsoir à tous. Vous venez d'écouter Mardi Politique et vous l'avez entendu, une version un peu plus courte que d'habitude. Vous l'aurez peut-être remarqué d'ailleurs, Mardi Politique avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Dans 10 minutes sur RFI, c'est le débat du jour. Guillaume Nodin et ses invités vont parler automobile et des 8 milliards d'euros d'aide promises par Emmanuel Macron tout à l'heure pour aider un secteur qui est aujourd'hui au point mort. D'ici là, le focus de la rédaction va parler des masques. Les fameux masques désormais obligatoires en France, dans les boutiques, dans les transports en commun, dans les entreprises aussi. Alors, il ne s'agit pas des mêmes que ceux des soignants qui avaient beaucoup manqué pendant le pic de l'épidémie. Là, on parle bien des masques grand public et a priori, David Bachet, les Français ne risquent pas d'en manquer.
Il y a raison de 2 masques jetables par jour, puisqu'on ne peut les garder que 3 ou 4 heures. Ça fait 120 millions de masques par jour. Mais il y a aussi ceux que l'on peut laver et réutiliser, certains 10 fois, d'autres 20, voire 40 fois. Donc, il n'y a pas un chiffre global et précis, mais ça vous donne déjà la mesure des besoins. Ils sont immenses. Alors, on ne parle pas là des masques à usage médical. Donc, tous les masques artisanaux, les masques faits maison, façon marinière bretonne ou en wax africaine, tous ces masques sont parfaitement valables, parfaitement légaux, mais certains usages nécessitent quand même un niveau minimum de performance. C'est le cas des masques que les entreprises doivent fournir à leurs employés, par exemple. Et il y a aussi, bien sûr, des particuliers qui veulent avoir des garanties sur la capacité de leurs masques à filtrer les postillons ou sur leur résistance au lavage successif.
Alors tous ces critères, David, ils sont fixés par les autorités françaises par une note ministérielle.
Exactement. Et aujourd'hui, 2 institutions en France réalisent l'essentiel des tests qui permettent, alors sans délivrer d'homologation à proprement parler, de valider la performance des masques. Et ce n'est pas un petit enjeu puisque seulement 25% des masques testés, 1 sur 4, passent les tests avec succès. 2 institutions donc pour ces tests, la Direction Générale de l'Armement et l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, l'IFTH, avec une capacité totale de 100 tests par jour. Le problème, c'est qu'ils reçoivent presque 3 fois plus de demandes. Il y a donc embouteillage. Écoutez Jacques-Hervé Lévy, directeur général de l'IFTH.
Pour réduire l'embouteillage, nous agissons sur 2 leviers. D'abord en poussant les petits producteurs de masques à utiliser exclusivement des matériaux qui ont déjà été référencés par des fournisseurs de matières premières textiles. Et de l'autre côté, nous augmentons la capacité de production de l'IFTH pour essayer de rattraper le plus rapidement possible le stock de masques qui reste à tester.
Je vous propose maintenant d'écouter Patrick Burguet. Il est directeur commercial de l'entreprise Artiga, qui crée habituellement du linge de maison dans le sud-ouest de la France. Lui, il a dû attendre près d'un mois avant que les masques qu'il s'est mis à fabriquer soient validés.
C'était pénalisant dans l'authenticité du produit que vous vendez. On est quand même dans quelque chose qui touche à la santé. Et donc, il est important d'avoir cette validation. Si on se place au niveau commercial, ça a pu être un moment un frein et ça a pu être pénalisant dans le commerce vis-à-vis des clients, des entreprises qui se sont mis sur la production de masques telles que la nôtre.
Voilà, ça c'est pour les masques réutilisables. On utilise aussi beaucoup en France de masques à usage unique. Ceux-là viennent le plus souvent de Chine. Et la difficulté, David, eh bien là, c'est de s'assurer de leur efficacité.
Oui, j'ai recueilli le témoignage d'Olivier Audino, directeur de BME Consulting. C'est une société lyonnaise qui importe de Chine des masques jetables grand public. Près de 3 millions de masques importés et fournis à quelques 200 entreprises, certaines du CAC 40. Olivier Audino a réussi à sécuriser ses filières. Mais il raconte aussi tout ce qu'il a dû traverser.
On a eu des mauvaises surprises qui nous est arrivées. Par exemple, c'est un fabricant qui souhaitait nous livrer des produits dont les coutures étaient mal faites, pas symétriques, qui débordaient un peu.
Une entreprise qui avait des certificats de conformité ?
Exactement, qui était tout à fait conforme. On allait travailler avec elle et puis dès qu'on a vu la marchandise, on l'a refusée. Certains se sont lancés dans l'import de masques sans connaître le métier d'importateur avec la Chine. Les douanes regardaient la qualité, surtout au niveau des certificats, etc. Et ils se rendaient compte qu'il y avait des certificats qui étaient faux.
Engagement non respecté, faux certificats. Les douanes en France ne manquent pas de travail. Alors ni la DGE, l'organisme public qui sert d'interlocuteur aux entreprises pour tout ce qui concerne les masques, ni la FCD, la fédération qui représente les enseignes de supermarchés, n'ont accepté de répondre aux questions de RFI. Ceci dit, à ce stade, aucun des interlocuteurs interrogés ne craint de pénurie pour les masques grand public en France.
Le focus de la rédaction, signé David Bachet. On reste en France où le gouvernement a décidé de ne tester que les personnes malades et leurs contacts. Pour l'instant, ce sont les seuls à bénéficier du fameux test qui détecte la présence du virus. Mais en Alsace, dans l'Est, dans l'une des régions les plus touchées, eh bien plusieurs élus demandent que ces tests soient pratiqués sur toute la population. Reportage, Angélique Ferrat.
Plusieurs élus alsaciens ont signé une tribune dans le journal local dès le mois d'avril. Ils demandaient qu'on teste tout le monde pour préparer le déconfinement. Le gouvernement français n'a pas suivi cette voie. Seuls les malades et leurs contacts sont testés depuis le 11 mai. 1500 personnes sont mortes à l'hôpital du coronavirus en Alsace, mais comme les tests sont rares, on ne connaît pas l'étendue de la contamination, plaide Catherine Trottmann, ancienne maire socialiste de Strasbourg. L'élu, qui est également la vice-présidente de l'Eurométropole, prépare de son côté le dépistage des habitants de Strasbourg et de ses communes satellites.
Lorsqu'on est confronté à une pandémie avec un virus aussi virulent, mais qui peut ne pas apparaître chez des personnes qui n'ont pas de symptômes, il faut vérifier comment il s'est répandu, qui il a atteint. Je crois qu'il y a un droit de savoir qui me paraît fondamental. On n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Et donc, il faut prévenir en même temps qu'accompagner.
Certains pays européens ont lancé ce genre d'études, comme l'Allemagne qui l'a fait dans ses régions les plus touchées. Les élus alsaciens défendent d'autant plus cette étude épidémiologique que les tests sont produits localement. La société Biosynex, basée au sud de Strasbourg, vient d'obtenir l'homologation de son test sérologique rapide. En 5 minutes, vous savez si vous avez des anticorps ou non. Le test est simple, comme un test de grossesse.
Alors pour réaliser le test, vous avez une cassette où on va mettre le diluant et un puits carré où on va mettre l'échantillon de sang. Donc pour l'échantillon de sang, vous avez un autopiqueur.
D'accord.
Suffit de... Voilà, c'est bon. D'accord. Et ensuite, deux gouttes de diluant. Là, dans votre échantillon de sang qui va être drainé dans la bandelette, vous avez des anticorps. S'ils retrouvent des antigènes et des anticorps, ils vont se marier. Et ça va apparaître.
En 2 mois, 4,5 millions de tests ont été commandés à Biosynex. La start-up a d'ailleurs décidé de rapatrier sa production en France depuis le 15 mai. Aurène Bitton, directeur commercial chez Biosynex.
Relocaliser en France, pour nous, ça commence à prendre un sens parce qu'on se dit que même si un coût est un peu plus élevé, on est quand même prêt à pouvoir investir pour notre santé. Et on a des demandes pour des pays européens et des consommateurs en France qui voudraient être moins rattachés ou dépendants de la Chine.
La région Grand Est va elle aussi acheter plusieurs millions de tests sérologiques. Elle a annoncé en avril vouloir tester ses départements les plus touchés par le coronavirus. Angélique Ferrat, Strasbourg.